Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire, ce soir, un conflit foncier a fait encore des victimes dans le territoire de Lodja le week-end dernier. 3 morts, 25 blessés grèvement, plus de 200 maisons incendiées. Bilan provisoire des affrontements entre les habitants des localités des secteurs de Nambelou et Mvungé à plus ou moins 10 km de Lodja Centre. Célébration ce lundi de la journée mondiale de la radio. Ici à Kinshasa, la Fédération des radios de proximité du Congo, en collaboration avec Internews, ont organisé un café de presse autour du thème « La viabilité économique des radios communautaires, défis et développements ». L'invité de ce journal est le professeur Alphonse Maindo, directeur de Trempebonte RDC, une organisation qui accompagne les paysans à acquérir des titres de concessions forestières, notamment dans la province de la Tchopo. Là-bas, cette organisation sensibilise les communautés à lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un conflit foncier fait encore des victimes dans les territoires de Lodja, dans la province du Sankourou. 3 morts le week-end dernier, 25 blessés grèvement, plus de 200 maisons incendiées dans les localités de Mongo et Mvungé et près de 100 ménages déplacés vers la cité de Lodja. Tel est le bilan provisoire des affrontements entre les habitants des localités des secteurs de Nambelou et Mvungé à plus ou moins 10 km de Lodja Centre. L'administrateur du territoire demande aux acteurs politiques vivant à Kinshasa de ne pas continuer à instrumentaliser la jeunesse. La société civile Force Vive Rénovée, par contre, souhaite que la lumière soit faite sur ces vieux conflits fonciers. Des explications avec Esther Ndalafina.
La situation sécuritaire est toujours précaire dans les localités du secteur de Mvungé et ceux du secteur de Nambelou. Les affrontements touchent plus d'une dizaine de localités. Plusieurs ménages sont en ce moment en fuite vers Lodja et passent la nuit à la belle étoile, affirment les sources sur place. L'administrateur du territoire de Lodja attribue cette situation à l'instrumentalisation de la jeunesse par les acteurs politiques vivant à Kinshasa, Médard et Longué.
Le bilan continue à un moment donné à se faire augmenter. Les politiciens sont toujours prêts à instrumentaliser la jeunesse. Plus il y a le sang qui coule, plus c'est ça, c'est leur gloire. Je demande encore une fois à la justice de faire le travail.
André Djongi, président de la société civile rénovée de Lodja, demande au gouvernement de punir les auteurs de ces atrocités.
Au gouvernement central, de diligenter une commission d'enquête afin de déceler le mobile et de connaître les auteurs en les déférant devant les responsabilités.
D'après les sources sur place, les agents de l'ordre déployés pour s'interposer contre les protagonistes se sont lancés au pillage des bétails de la population déjà meurtrie par les atrocités. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
En Ituri, 16 miliciens ont été neutralisés par les FARDC au cours des affrontements hier dimanche contre la coalition CODECO FPIC au village d'Abombi, à environ 75 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Des sources concordantes signalent que 3 civils sont également morts pendant les combats entre les deux parties. Le porte-parole de l'armée en Ituri indique que ce bilan est encore provisoire car les opérations militaires se poursuivent dans la zone. D'autres détails avec Isaac Remoyopi.
Des miliciens de la faction de la CODECO dénommée Bon Temple de DSC de la Force Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC ont attaqué dimanche vers 3h du matin la position de l'armée au village d'Andissa dans le secteur de Banyarikilo. Dans la foulée, un militaire et des civils, une femme et un enfant ont attrapé des balles et sont morts sur place, affirment des sources de sécurité. Des FARDC sur place ont réussi à repousser l'ennemi grâce à leur supériorité numérique. Les affrontements ont duré environ 3h jusqu'au matin. L'armée dresse un bilan provisoire de 16 miliciens tués et plusieurs autres qui sont blessés. Selon les porte-parole des FARDC en Ituri, les opérations de ratissage se poursuivent pour démanteler ces groupes armés. Depuis ce lundi matin, calme précaire s'observe dans ces milieux. Certains habitants qui ont fui dans la brousse commencent à regagner leur domicile. Le trafic a repris normalement sur les tronçons Bounia-Mungwalu. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Célébration ce lundi de la journée mondiale de la radio. À Kinshasa, la Fédération des radios de proximité du Congo, FRPC, en collaboration avec Internews, a organisé un café de presse autour du thème « La viabilité économique des radios communautaires, défis et développement ». Le ministère de la Communication appelle les journalistes à rester professionnels, à ne pas diffuser des fausses informations et demande aux radios communautaires de se mettre en ordre avec la loi. Reportage Fulbert Balonagui.
À l'échelle mondiale, le thème est la radio et la confiance et à ce sujet, l'UNESCO lance un message de confiance à la radio. Jean-Pierre Ilboudo, représentant pays UNESCO.
Notre confiance en la radio tient peut-être à quelque chose de plus profond encore. Là où les images peuvent être déformées, la radio établit une relation plus intime entre une parole et une écoute.
Le ministère de la Communication invite les journalistes de ne pas confondre scoop et précipitation. Maître Nicolas Lianza, directeur de cabinet du ministre national des Communications.
Profusion des informations fausses. Confondant précipitation et rapidité par le traitement déséquilibré et par la suggestion partisane des acteurs des médias, rappelle la nécessité pour le journaliste radio de produire un contenu indépendant de qualité tenant compte des normes éthiques et de l'intérêt public.
La Fédération des radios de proximité du Congo se lance des objectifs à atteindre l'année prochaine. Rigobert Malalako est son secrétaire exécutif.
C'est d'abord la reconnaissance juridique de la spécificité des radios communautaires. En second lieu, c'est la fiscalité. Nous sommes vraiment coincés par les taxes et impôts.
Cette célébration est la 11e en RDC.
Au Nord Kivu, la surpopulation carcérale dans la prison centrale Muzenze de Goma inquiète de plus en plus les responsables de cet établissement pénitentiaire ainsi que les quelques organisations partenaires. Parmi les 3111 personnes en détention préventive, il n'y a que 583 qui ont été condamnées jusque-là par la justice. La promiscuité dans laquelle vivent actuellement ces pensionnaires présente plusieurs risques si d'autres dispositions idoines ne sont pas prises par les autorités compétentes. Le point avec Gabriel Ouaménia.
Cette crainte est déjà exprimée par plusieurs acteurs intervenant au sein de cette maison d'arrêt. C'est justement au regard de l'augmentation exponentielle des personnes en détention préventive enregistrées jusqu'à ce jour à Muzenze. La prison de Goma, conçue pour une capacité de 150 personnes, héberge actuellement plus de 3000 détenus. Parmi eux seulement, plus de 500 hommes et femmes ont été condamnés par la justice. Ce surpeuplement a des conséquences sur l'environnement sanitaire et hygiénique des détenus selon les sources proches du centre médical de la prison. Les risques d'explosion des maladies diarrhéiques et cutanées sont probants, soulignent les mêmes sources. D'autre part, cette promiscuité a déjà entraîné des décès en cascade des détenus dans les deux grands blocs de la prison depuis le début de l'année. Au début de ce mois, par exemple, deux détenus militaires sont décédés dans la prison, affirment les sources anonymes de la prison. Par ailleurs, les sources anonymes proches des responsables en charge de la gestion des prisons dans la province précise que les fonds de subvention alloués par le gouvernement central pour la prise en charge alimentaire et sanitaire des détenus restent insignifiants et n'arrivent pas régulièrement. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
Parlons de cette position de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Par rapport à la tentative de déstabilisation des institutions de la République, le secrétaire général de ce parti présidentiel affirme que la Constitution de la République ne prévoit pas la violence comme mode d'accession au pouvoir. Augustin Kabuya l'a déclaré au cours d'une conférence de presse tenue ici à Kinshasa. Il appelle ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force à attendre les élections de 2023. Il est au micro de Paul Matendo.
Le mode d'accéder au pouvoir par la violence, c'est quelque chose que notre peuple avait déjà banni après le dialogue intercongolais de San City. L'IDP s'est battue pendant 37 ans avec une méthode d'élite, la non-violence. Et aujourd'hui, l'IDP n'acceptera jamais, et le peuple congolais dans son ensemble, qu'un groupe d'individus puisse accéder au pouvoir par la violence. Et on se demande, les gens qui critiquent l'IDP matin, midi, soir, au lieu de laisser que le peuple sanctionne l'IDP en 2023 par la voie électorale, les mêmes personnes sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent recourir par la voie de la violence pour accéder au pouvoir. La Constitution de la République démocratique du Congo ne donne jamais l'opportunité à n'importe quel Congolais d'accéder au pouvoir par un coup de force. C'est pourquoi nous, au niveau de l'IDPS, Nous condamnons avec la dernière énergie cette façon de voir les choses.
Par ailleurs, le projet de développement du système de santé PDSS vient de réagir au rapport sur les allégations de détournement portées à sa charge par l'équipe de l'IGF, l'Inspection générale des finances. Dans un communiqué signé par son coordonnateur national, Dr Dominique Babo-Koubouye, et dont copie est parvenue à Radio Capi, le PDSS rejette en bloc toutes les allégations. Les détails de ce communiqué avec vous, Esther Ndalafina.
Concernant les dépenses sans justificatif effectuées par le projet de développement du système de la santé de l'ordre de plus de 7 millions de dollars américains pour le financement IDEA en 2021, le PDSS explique pour sa part que les pièces originales de ces dépenses existent et sont disponibles dans les établissements publics en province. Quant à l'existence des dépenses de l'ordre de 2 316 000 dollars qualifiées inéligibles par la Banque mondiale et remboursées aux bailleurs par le gouvernement de la RDC sans que les responsabilités ne soit partagée au cours de la période de 2016 à 2019 et pour plus de 70%, le PDSS indique que cette situation concerne les anciens responsables de cette coordination. Dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, l'IGF revient sur la restitution par le PDSS au ministère de la Santé de la somme de 224 000 dollars destinée à l'achat des 3 ambulances médicalisées sans que la coordination de ce projet ne soit informée. Le PDSS dit avoir retourné l'argent au ministère étant donné que les ambulances n'avaient jamais été achetées. Il demande à cet effet à l'IGF d'obtenir des explications auprès du ministère de la Santé. Quant aux irrégularités dans la passation de marchés publics et la non-application des sanctions contre les fournisseurs défaillants ou ayant livré en retard les intrants, pour le PDSS, les explications du retard fournies par les fournisseurs ne leur permettaient pas de prendre des sanctions à leur égard.
Et puis, le directeur de la province éducationnelle Sud Kivu 2 est suspendu de ses fonctions depuis le week-end dernier. Décision prise par le secrétaire général de l'EPST à Kinshasa. Il est reproché à Albert Bopepima le fait d'avoir exigé le paiement de 1000 francs congolais par élève pour la construction de ses bureaux en territoire d'Ouvira et de Fizi. Le point avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Selon le directeur de cabinet du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, la perception de ces 1000 francs congolais pour la construction de ces infrastructures va à l'encontre de la politique de la gratuité décrétée dans les écoles primaires. Professeur Eddy Moinzou.
La suspension, c'est par rapport au régime disciplinaire. Donc, il a 20 jours pour fournir les explications. Et à l'issue de ces 20 jours, l'autorité verra s'il faut le déplacer de là ou pas.
Dans l'entretemps, le prophète d'Albert Bopepiema est revenu sur sa décision dans une note parvenue à Radio Okapi ce lundi 14 février. Il a demandé au chef d'établissement de sursoir la collecte de ce 1000 francs congolais auprès des élèves. Mais c'est un faux fouillon pour le professeur Eddy Moinzou.
C'était un pire appel à l'ordre, il a voulu anticiper, mais pour nous c'est un repentir tardif. Une autorité ne doit pas. Et là, j'ai semé la zizanie en négligeant aux parents, surtout avec la gratuité, de payer cette somme-là. Et le fait déjà de signer, c'est une faute grave pour une autorité au niveau provincial. Et voilà pourquoi on l'a sanctionné.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Le nouveau marché provisoire du Campem à Mongafula sera opérationnel dans 2 semaines. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa qui l'a annoncé le week-end. C'était à l'issue d'une visite d'inspection de suite, dont devant accueillir les vendeurs des marchés pirates de Matadi Kibala et ses environs. Il s'agit d'une des mesures prises après le drame qui a coûté la vie à 25 personnes dans cette partie de la ville. Santini Ngobila était accompagné du patron de la police de Kinshasa. D'autres précisions avec vous, Babel Mpongo Masimango.
Au Grand PM, non loin du marché Matadi Kibala, plusieurs étalages ont déjà été construits. Les responsables du projet assurent que ce marché provisoire pourra accueillir les vendeurs dans 2 semaines. Au site Mitendi, choisi pour la construction d'une zone de négoce moderne et comme lieu de déchargement des camions en provenance du Congo central, Chantini Ngobila a donné des instructions pour le dégarpissement de tout occupant illégal. Le site est en effet envahi par plusieurs constructions anarchiques. À son passage sur le lieu du drame du 2 février, le gouverneur a rappelé ses instructions de maintenir les magasins fermés jusqu'à nouvel ordre. Il a appelé la population à la vigilance, notamment à éviter d'acheter des terrains ou des parcelles sur des sites non autorisés. Il a aussi souligné que toutes les constructions anarchiques seront détruites pour éviter pareil drame à l'avenir.
Actualité internationale.
Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil souverain soudanais, a rencontré hier dimanche Moustapha Ki, président de la Commission de l'Union africaine. L'objectif de cet entretien était de discuter des questions politiques du Soudan. Les deux hommes se sont mis d'accord
Tout accord ou initiative soutiendra la stratégie de stabilité en Afrique. Après Paris, des centaines de véhicules participant au convoi anti-pass vaccinal, dont beaucoup venus de France, se préparaient ce lundi à se diriger vers Bruxelles, malgré l'interdiction de manifester dans la capitale belge où se trouvent les institutions européennes.
L'invité.
L'invité de ce journal est le professeur Alphonse Maindo, directeur de Trampenbos RD Congo, une organisation qui accompagne les paysans à acquérir des titres de concessions forestières, notamment dans la province de la Tchopo. Là-bas, cette organisation sensibilise les communautés paysannes à lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Le professeur Alphonse Maindo s'entretient à ce sujet avec Jacques Moukonkoli.
Professeur Alphonse Maindo, bonjour.
Bonjour.
Dans votre travail, vraiment, vous faites la promotion de la foresterie communautaire. Qu'entend-on par la foresterie communautaire et quelle en est son importance?
La foresterie communautaire, c'est une initiative que le gouvernement congolais vient de mettre en place il y a quelques années seulement. Mais ce n'est pas une nouveauté parce qu'en réalité, c'est tout simplement une reconnaissance de ce que les communautés locales ont toujours fait. C'est-à-dire que les communautés locales sont des gestionnaires des forêts. Alors, et il s'agit tout simplement ici de leur reconnaître des droits qu'ils ont pour une gestion durable des forêts. Alors, ils deviennent donc propriétaires. La loi congolaise dit que les terres et les sous-sols appartiennent à l'État. Et donc, les communautés, même si vous avez des revendications coutumières sur tel ou tel espace du territoire national, ce n'est pas votre propriété. Or, avec la concession que vous allez avoir, qui est délivrée par l'État congolais, par le gouverneur de province à titre gratuit et perpétuel, donc vous devenez propriétaire, même l'État, s'il veut faire des choses sur cet espace-là, doit faire une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique avec des indemnisations qui vont avec.
Professeur, quel est le sens de cette foresterie communautaire, si vous voulez? Quel en est l'objectif?
Le sens de cette foresterie communautaire, parce qu'il y a une stratégie nationale qui a été mise en œuvre, ça vise à assurer le développement local de communautés forestières pour que ces communautés-là puissent véritablement profiter des forêts dont ils ont la jouissance de par la coutume et qui permettent de leur développement. Et donc pour ça, qu'ils gèrent durablement et qu'ils puissent en tirer les meilleurs profits et en les sécurisant de la même manière contre les prédations qui proviendraient soit des acteurs étatiques ou des acteurs privés.
Et c'est pour cette raison que vous tenez à l'acquisition des titres forestiers au profit des communautés locales.
Oui, exactement, parce qu'on voit de plus en plus une espèce de boulimie forestière par des élites qui récupèrent des grandes concessions, surtout autour des grandes villes. Ils vont en faire après des lotissements et au détriment de communautés qui risque de manquer des terres dans les années à venir. Alors donc, pour nous, c'est une manière aussi de sécuriser les terres pour les communautés locales, pour qu'elles aient des forêts et pour continuer à faire les activités.
Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la dégradation des forêts. Pouvons-nous dire que c'est aussi une des solutions à la problématique du réchauffement climatique?
Oui, exactement, parce que les communautés ont fait preuve de leur capacité à gérer durablement les forêts. Et nous avons aujourd'hui un défi mondial en ce qui concerne le réchauffement climatique et qui entraîne beaucoup de conséquences avec des pertes de la biodiversité et tout ça. Nous risquons disparaître. Et si on redonne aux communautés ces forêts-là, on a ainsi aussi une possibilité que ces forêts soient mieux gardées, moins détruites, et donc une stabilisation de la dégradation forestière et de la déforestation qui serait bénéfique pour toute l'humanité.
Pour ces communautés que vous êtes en train d'accompagner techniquement, combien ont déjà reçu leur titre forestier et combien en reste-t-il encore?
Alors aujourd'hui, nous sommes heureux que dans l'ex-province orientale, c'est la province de la Tchopo qui a été la première à attribuer les trois premiers titres de concession des forêts communautaires. Nous en avons une chez les Barumbi Tchopo, nous en avons une autre chez les Bampaka de Bampondi et une troisième chez les Bampaka de Bafamogo. Et en dehors de ça, il y a une dizaine d'autres qui sont sur la table du gouverneur en étude. Et donc je pense que les arrêtés pourraient sortir d'ici quelques semaines ou au plus tard quelques mois. Et en dehors de ces 10 autres, donc on aura probablement d'ici quelques semaines, quelques mois, nous aurons 13 titres de CFSL. Et je pense d'ici la fin de l'année, on aura encore 16 autres que nous sommes en train de faire avec les projets gouvernementaux, programme intégré pour la RED+. On a déjà reçu plusieurs demandes. Nous sommes en train de constituer 16 nouveaux dossiers de CFSL. Donc, d'ici la fin de l'année, on aura probablement 29 CFSL dans la province de la Tchopo.
Professeur, les forêts doivent être préservées par les paysans. Comment peut-on aider les communautés à exercer moins de pression sur ces forêts quand on sait qu'il n'y a pas d'activité alternative?
Effectivement, beaucoup de gens nous ont souvent demandé, mais comment vous appuyez des activités économiques avec les communautés? communauté, tout ça. Vous êtes en train de demander qu'il y ait une meilleure protection de forêt, en même temps vous appuyez des activités économiques, et ça risque pas d'être contradictoire. On dit non, il faut que les populations puissent avoir l'intérêt de garder les forêts debout. Pour que les populations aient l'intérêt de garder les forêts debout, elles doivent donc trouver d'autres alternatives qui leur permettent d'avoir des moyens de subsistance. Et c'est pour ça qu'on fait des activités génératives de revenus. Donc on appuie les gens avec les cultures pérennes, et ces cultures pérennes, on les met pas n'importe où, on les met dans les jachères, dans les zones dégradées pour les valoriser. Après, ça évite donc que les gens puissent continuer à aller ronger dans la forêt primaire, ce qui nous préserve, et les autres forêts secondaires sont en train de se régénérer de manière naturelle.
Professeur Alphonse Mahindo, merci.
Je vous en prie.
C'était l'invité de ce journal, le professeur Alphonse Mahindo, qui s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. Fin de ce journal, mais vous pouvez continuer à nous suivre sur toutes les plateformes numériques des Radio Okapi.